Chapitre 7. Les secrets de Cuccio. Cressait dans la lumière du printemps, avec ses arbres aux feuilles transparentes et le frémissement argenté de la mauldre, était resté pour Cuccio une vision heureuse. Mais quand, ce matin d'octobre, le jeune Siennois, qui se retournait sans cesse pour s'assurer qu'il n'avait pas d'archer à ses trousses, arriva sur les hauteurs de Cressait, il se demanda un instant s'il ne s'était pas trompé. Il semblait que l'automne eût rapetissé le manoir. « Les tourelles étaient-elles donc si basses ?» se disait Cuccio. « Et suffit-il d'une demi-année pour vous changer à ce point la mémoire ?» La cour était devenue une mare boueuse où son cheval enfonçait jusqu'au pâturon. « Au moins, pensa Cuccio, il y a peu de chances qu'on me vienne trouver ici. » Il jeta les rênes à son valet. « Qu'on bouchonne les chevaux et qu'on leur donne à manger. » La porte du manoir s'ouvrit et Marie de Cressait apparut. L'émotion la força de s'appuyer au chambranle. « Comme elle est belle, pensa Cuccio, et elle n'a point cessé de m'aimer. » Alors les lézardes des murs s'effacèrent et les tours du manoir reprirent pour Cuccio les proportions du souvenir. Mais déjà, Marie criait vers l'intérieur de la maison. « Mère, c'est Messire Cuccio qui est revenu !» Dame Eliabelle fit grande fête au jeune homme, le baisa aux joues et le serra contre sa forte poitrine. L'image de Cuccio avait souvent peuplé ses nuits. Elle le prit par les mains, le fit asseoir, commanda qu'on lui apportât du cidre et des pâtés. Cuccio accepta de bon cœur cet accueil, et il expliqua sa venue de la façon qu'il avait méditée. Il arrivait à Naufle pour remettre en ordre le comptoir qui souffrait d'une mauvaise gestion. Les commis ne faisaient pas rentrer à temps les créances. Aussitôt, Dame Eliabelle s'inquiéta. « Vous nous aviez donné toute une année, » dit-elle. « L'hiver vient après une bien chétive récolte et nous n'avons pas encore... » Cuccio resta dans la vague. Les châtelains de Cressait étant de ses amis, il ne permettait pas qu'on les inquiétât. Mais il se rappelait leur invitation à séjourner. Dame Eliabelle s'en réjouit. Nulle part au bourg, assura-t-elle, il ne trouverait plus d'aise ni meilleure compagnie. Cuccio réclama son porte-manteau, qui chargeait le cheval de son valet. « J'ai là, dit-il, quelques étoffes qui vous plairont, j'espère. Quant à Pierre et Jean, j'ai pour eux deux faucons bien dressés, qui leur feront faire meilleure chasse, s'il est possible. » Les étoffes, les dentelles, les faucons, éblouirent la maison et furent reçus avec des cris de gratitude. Pierre et Jean, leurs vêtements toujours imprégnés d'une forte odeur de terre, de cheval et de gibier, posèrent à Cuccio sans question. Ce compagnon, miraculeusement surgi alors qu'il se préparait aux longues ennuis des mauvais mois, leur parut encore plus digne d'affection qu'à son premier passage. On eût dit qu'ils se connaissaient depuis toujours. « Et notre ami le prévôt porte-fruit, que devient-il » demanda Cuccio. « Il continue de piller autant qu'il peut, mais plus chez nous, grâce à Dieu. » Et grâce à vous. » Marie glissait dans la pièce, ployant le buste devant le feu qu'elle attisait, ou disposant de la paille fraîche sur le bas-flanc à courtine où dormaient ses frères. Elle ne parlait pas, mais ne cessait de regarder Cuccio. Celui-ci, au premier instant qu'il fut seul avec elle, la prit doucement par les coudes et la tira vers lui. « N'y a-t-il rien dans mes yeux pour vous rappeler le bonheur ? » dit-il, empruntant sa phrase à un récit de chevalier qu'il avait lu récemment.
« Ah, si, messire, » répondit Marie d'une voix tremblante. « Je n'ai point cessé de vous voir ici, aussi loin que vous fussiez. Je n'ai rien oublié, ni rien défait. »
Il se chercha une excuse à n'être pas revenu de 6 mois et à n'avoir donné aucun message. Mais, à sa surprise, Marie, loin de lui faire reproche, le remercia d'un retour plus prompt qu'elle ne le prévoyait.
« Vous aviez dit que vous reviendriez au bout de l'an pour les intérêts, » dit-elle. « Je ne vous espérais point avant, mais vous ne seriez point venu que je vous aurais attendu toute ma vie. »
Cuccio avait emporté de Cressait le léger regret d'une aventure inachevée à laquelle, pour être bien franc, il avait peu songé pendant tous ces mois. Or, il retrouvait un amour ébloui, qui avait grandi, pareil à une plante, au long du printemps et de l'été.
« Que j'ai de chance, » pensait-il. « Elle pourrait m'avoir oublié, s'être mariée. »
Les hommes de nature infidèle, si infatués qu'ils paraissent, sont souvent assez modestes en amour, parce qu'ils imaginent les autres d'après eux-mêmes. Cuccio s'émerveillait d'avoir inspiré, l'entretenant si peu, un sentiment aussi puissant et aussi rare. Moi non plus, Marie, je n'ai cessé de vous voir, et rien ne m'a délié de vous, dit-il avec toute la chaleur que réclamait un si gros mensonge. Ils se tenaient l'un devant l'autre, également émus, également embarrassés de leurs paroles et de leurs gestes. Marie, reprit Guccio, je ne suis point venu ici pour le comptoir, ni pour aucune créance, mais à vous je ne veux ni ne puis rien cacher. Ce serait offenser l'amour qui nous lie. Le secret que je vais vous confier engage la vie de beaucoup, et la mienne propre. Mon oncle et des amis puissants m'ont chargé de dissimuler en lieu sûr des pièces écrites qui importent au royaume et à leur propre salut. À cette heure, des archers sont sûrement à ma recherche. » Cédant à son penchant, il recommençait à gonfler un peu son personnage. « J'avais 20 places où chercher un refuge, mais c'est vers vous, Marie, que je suis venue. Ma vie dépend de votre silence. »«
C'est moi, dit Marie, qui dépend de vous, monseigneur. Je n'ai foi qu'en Dieu et en celui qui le premier m'a tenu dans ses bras. Ma vie est votre vie, votre secret est le mien. Je scellerai ce que vous voudrez semer, je tairai ce que vous voudrez taire, et le secret mourra avec moi. »
Et des larmes embuaient ses prunelles bleues sombres. « Ce que je dois cacher, dit Guccio, est contenu dans un coffret de plomb à peine grand comme les deux mains. Y a-t-il quelque place ici ?» Marie réfléchit un instant.
« Dans le four de la vieille étuve, peut-être, répondit-elle. « Non, je sais un meilleur endroit, dans la chapelle. Nous irons demain matin. Mes frères quittent la maison à l'aube pour la chasse. Demain, ma mère les suivra de peu, car elle doit se rendre au bourg. S'ils voulaient m'emmener, je me plaindrais de douleur au gosier. Feignez de dormir longtemps. »
Guccio fut logé à l'étage, dans la grande pièce propre et froide qu'il avait déjà occupée. Il se coucha, sa dague au flanc, et la boîte de plomb sous la tête. Il ignorait qu'à la même heure, les deux frères Marini avaient déjà eu leur dramatique entrevue, et que l'ordonnance contre les Lombards n'était plus que cendre. Il fut réveillé par le départ des deux frères. S'étant approché de la croisée, il vit Pierre et Jean de Cressay montés sur de mauvais bidets qui passaient le porche, leur faucon sur le poing. Puis des portes battirent. Un peu plus tard, une jument grise, assez fatiguée par l'âge, fut amenée à Dame Eliabelle, qui s'éloigna à son tour, escortée du valet boiteux. Alors, Guccio enfila ses bottes et attendit. Quelques instants après, Marie l'appela du rez-de-chaussée. Guccio descendit, le coffret glissé sous sa cotte. La chapelle était une petite pièce voûtée, à l'intérieur du manoir et dans la partie tournée vers l'est. Les murs en étaient blanchis à la chaux. Marie alluma un cierge à la lampe à huile qui brûlait devant une statue de bois, assez grossière, de Saint Jean l'Évangéliste. Dans la famille Cressay, l'aîné des fils portait toujours le prénom de Jean. Elle amena Guccio sur le côté de l'autel.
« Cette pierre se soulève, » dit-elle en désignant une dalle de petite dimension munie d'un anneau rouillé.
Guccio eut quelque peine à déplacer la dalle. À la lueur du cierge, il aperçut un crâne et quelques débris d'ossements.
« Qui est-ce » demanda-t-il en faisant les cornes avec les doigts.
« Un aïeul, » dit Marie. « Je ne sais pas lequel. »
Guccio déposa dans le trou, près du crâne blanchâtre, la boîte de plomb. Puis la pierre fut remise en place.
« Notre secret est scellé auprès de Dieu, » dit Marie.
Guccio la prit dans ses bras et voulut l'embrasser.
« Non, pas ici, » dit-elle avec un accent de crainte. « Pas dans la chapelle. »
Ils regagnèrent la grande salle où une servante achevait de placer sur la table le lait et le pain du premier repas. Guccio se mit dos à la cheminée jusqu'à ce que, la servante partie, Marie vint auprès de lui. Alors ils nouèrent leurs mains. Marie posa la tête sur l'épaule de Guccio et elle demeura ainsi un long moment à apprendre, à deviner ce corps d'homme auquel il était décidé entre elle et Dieu qu'elle appartiendrait.
« Je vous aimerai toujours. » « Même si vous deviez ne plus m'aimer, » dit-elle.
Puis elle alla verser le lait chaud dans les écuelles et y rompit le pain. Chacun de ses gestes était un geste heureux. 4 jours passèrent. Guccio accompagna les frères à la chasse et n'y fut pas maladroit. Il fit au comptoir de Naufle plusieurs visites afin de justifier son séjour. Une fois, il rencontra le prévôt Portefruit qui le reconnut et le salua avec servilité. Ce salut rassura Guccio. Si quelques mesures avaient été décrétées contre les Lombards, messire Portefruit n'eût pas usé de tant de politesse. « Et si c'est lui qui doit un prochain jour venir m'arrêter, » pensa Guccio, « l'or que j'ai emporté m'aidera bien à lui fourrer la paume. » Dame Eliabelle, apparemment, ne soupçonnait rien de l'aventure de sa fille avec le jeune Siennois. Guccio en fut convaincu par une conversation qu'il surprit un soir entre la châtelaine et son fils cadet. Guccio était dans sa chambre à l'étage. Dame Eliabelle et Pierre de Cresset parlaient auprès du feu dans la grande salle et leur voix montait par la cheminée. « Il est dommage en vérité que Guccio ne soit point noble, » disait Pierre. « Il fournirait un bon époux à ma sœur. Il est bien fait, instruit et placé avantageusement dans le monde. Je me demande si ce n'est point chose à considérer. » Dame Eliabelle prit fort mal la suggestion. « Jamais !» s'écria-t-elle. « L'argent te fait perdre la tête, mon fils. Nous sommes pauvres présentement, mais notre sang nous donne droit aux meilleures alliances, et je n'irai point donner ma fille à un garçon de roture qui, par surcroît, n'est même pas de France. Ce damoiseau, certes, est plaisant, mais qu'il ne s'avise point de fleureter avec Marie. J'y mettrai bon ordre. Un Lombard. D'ailleurs, il n'y songe. Si l'âge ne me rendait modeste, je t'avouerai qu'il a plus Dieu pour moi que pour elle, et que c'est la raison pour laquelle le voilà installé ici comme un greffon sur l'arbre. » Guccio, s'il sourit des illusions de la châtelaine, fut blessé du mépris dans lequel elle tenait et sa naissance et son métier. « Ces gens-là vous empruntent de quoi manger, ne vous paient point ce qu'ils vous doivent, mais ils vous considèrent pour moins que leur manant. Et comment feriez-vous, bonne dame, sans les Lombards ?» se disait Guccio, fort agacé. « Eh bien, essayez donc de marier votre fille à un grand seigneur et voyez comment elle acceptera. » Mais en même temps, il se sentait assez fier d'avoir si bien séduit une fille de noblesse, et ce fut ce soir-là qu'il décida de l'épouser, en dépit de tous les obstacles qu'on pourrait y mettre. Au repas qui suivit, il regardait Marie en pensant « Elle est à moi, elle est à moi. » Tout dans ce visage, les sourcils relevés, les lèvres entrouvertes, tout semblait lui répondre « Je suis à vous. » Et Guccio se demandait « Mais comment les autres ne voient-ils pas ?» Le lendemain, Guccio reçut à Naufle un message de son oncle où celui-ci lui faisait savoir que le péril était pour l'heure conjuré et l'invitait à rentrer aussitôt. Le jeune homme dut donc annoncer qu'une affaire importante le rappelait à Paris. Dame Eliabelle, Pierre et Jean montrèrent de vifs regrets. Marie ne dit rien et continua l'ouvrage de broderie auquel elle était occupée. Mais lorsqu'elle fut seule avec Guccio, elle laissa paraître son angoisse. Était-il arrivé un malheur? Guccio était-il menacé? Il la rassura. Au contraire, grâce à lui, grâce à elle, les hommes qui voulaient la perte des financiers italiens étaient vaincus. Alors, Marie éclata en sanglots parce que Guccio allait partir.
« Vous me quittez, » dit-elle, « et c'est comme si je mourais. »«
Je reviendrai aussitôt que je pourrai, » dit Guccio. En même temps, il couvrait de baisers le visage de Marie. Le salut des compagnies lombardes ne le réjouissait qu'à moitié. Il eût voulu que le danger durât encore.
« Je reviendrai, belle Marie, » répéta-t-il. « Je vous le jure, car je n'ai point au monde plus grand désir que de vous. »
Et cette fois, il était sincère. Il était arrivé cherchant un refuge. Il repartait avec un amour au cœur. Comme son oncle, dans le message, ne lui parlait des documents cachés, Guccio feignit de comprendre qu'il devait les laisser à Cresset. Il ménageait ainsi le prétexte à un retour.